Vous écoutez
RMC.
Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter?
RMC.
Nous sommes de retour
pour jouer en mauvais tour,
afin de préserver le monde de la dévastation,
afin de rallier tous les peuples à notre nation.
9h midi,
afin d'écraser l'amour et la vérité,
afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée.
Olivier Truchot.
Et Houston, on a un problème.
Vous êtes des grands malades.
Vous massacrerons jusqu'au dernier.
On peut discuter peut-être.
On ne peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner.
Les grandes gueules.
Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit.
Retour des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec le grand oral de Jordan Bardella, avec Barbara Lefebvre, Johnny Blanc et Jérôme Marty. Question de Jérôme Marty.
Oui, on parlait tout à l'heure de dépenses d'État et de la façon de faire des économies. On a obtenu le déremboursement de l'homéopathie. Vous avez vu qu'il y avait une tribune qui a été signée par 124 médecins, que beaucoup d'autres médecins les ont soutenus. Nous, syndicalement, on les a soutenus aussi. Et on a obtenu ça. Donc je voulais savoir quelle était la position de Jordan Bardella sur le déremboursement de l'homéopathie.
Je suis assez réservé sur la question, pour être très honnête. Moi, j'ai eu recours à l'homéopathie à titre personnel quand j'étais un peu plus jeune. J'avais problème de sommeil. Je sais que ça m'a bien aidé. Donc, je suis un peu réservé. Maintenant, n'étant pas médecin, je me sens pas obligé d'avoir un avis tranché sur tout. On étudiera la question et je pense qu'on sera à même de vous donner un avis prochainement.
Question, tiens, sur
comment il botte en
ça
touche.
S'appelle, oh ça s'appelle botte en touche. Ouais.
Exactement. Mais c'est parfaitement.
Ah, en même temps.
Bah non, mais
ah
bah
si vous voulez, je pense.
Non, mais honnêtement, il n'y a rien de pire que les responsables politiques. Ils font semblant d'être capables de commenter tout, d'avoir un avis sur tout. Le pire étant généralement sur le foot. Quand les responsables politiques font semblant de s'intéresser au foot alors qu'ils n'y connaissent rien. Alors moi, généralement, quand il y a la Coupe du Monde ou des autres matchs, je dis je n'y connais strictement rien en foot et j'ai arrêté de regarder quand j'avais 13 ans. Voilà.
Pour revenir sur le CETA, mais simplement sur l'aspect politique du vote hier à l'Assemblée nationale, parce que pour la première fois, 52 députés de la majorité se sont abstenus et 9 ont voté contre.
Oui.
Ils vont peut-être être exclus de leur mouvement.
Mais ça, ils feront ce qu'ils veulent, mais.
Ça dit quoi?
Ça dit que, en fait, Emmanuel Macron est en train de défendre un modèle qui est à bout de souffle. Moi, j'ai lu la tribune de Nicolas Hulot sur le sujet qui appelle évidemment à voter contre le CETA parce que, en fait, Emmanuel Macron nous fait beaucoup de leçons sur l'écologie, etc. Et il fait tout le contraire dans les actes. Et quand on veut défendre l'environnement, quand on veut défendre l'écologie, on peut pas effectivement soutenir le CETA. Donc je suis content qu'il y ait quelques abstentions. Maintenant, ce ne sont pas des députés très courageux. Je pense que le courage aurait été d'assumer clairement une position contre, parce qu'on y perd dans tous les domaines. On y perd dans le domaine économique, à l'interprofessionnel de la viande, Interbev, qui nous explique que le CETA va menacer en l'occurrence 50 000 emplois dans la filière bovine. On y perd en matière sanitaire. Je vous rappelle qu'on a déjà trouvé 40 substances chimiques qui sont interdites au sein de l'Union européenne, qui sont arrivées par le CETA, qui vont se retrouver concrètement dans les assiettes des Français, le saumon transgénique. Il y a un certain nombre de failles dans la législation canadienne qui permet d'utiliser des farines animales. Il y aura aucun contrôle parce que les contrôles au sein de l'Union européenne sont complètement dérisoires. Et les derniers scandales récents qu'il y a pu avoir avec la viande avariée polonaise, la viande avariée brésilienne ont démontré que les contrôles étaient vraiment inexistants. Et puis surtout, on met en concurrence notre économie avec des normes qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire dans le cadre du Mercosur, par exemple, le bio au Brésil n'est pas le bio en France, et donc vous avez des écarts de normes qui créent une concurrence déloyale. Et je pense que face à ces traités de libre-échange, je l'ai dit, la seule solution c'est la proximité.
Alors,
mais pas la caricature, pas la fermeture, mais il faut juste que quand on peut produire chez nous, quand on peut raisonnablement produire ici, eh bien il faut pouvoir soutenir des filières.
Question de Barbara Lefebvre.
Oui, alors je voulais savoir comment vous interprétez la victoire de la droite conservatrice en Grèce. Mitsotakis a largement écrasé Tsipras aux élections. Comment est-ce que vous comprenez cette victoire des conservateurs en Grèce après justement toutes ces années où Tsipras était censé gérer la déconfiture économique? Ouais. Est-ce qu'il a réussi? La preuve que non.
Ça me paraît assez simple, c'est que la Grèce a été plombée par l'austérité. À tel point qu'on est arrivé à un recul absolument inouï de l'espérance de vie là-bas, un retour de maladies qu'on n'avait pas vu depuis un certain nombre d'années, un effondrement des salaires, une augmentation spectaculaire du coût de la vie. Tsipras est arrivé en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire le bras de fer avec l'Union européenne, etc. Et en l'occurrence, il s'est couché. Voilà, il s'est soumis devant l'Union européenne, il s'est soumis devant la Commission européenne. Et en réalité, aujourd'hui, le pouvoir, on l'a transmis à Bruxelles, on l'a transmis à la Commission européenne. Aujourd'hui, si vous voulez voter votre budget, il faut l'aval de la Commission européenne. Lorsque le gouvernement de Matteo Salvini, qu'on a dit populiste avec le mouvement du 5 étoiles en Italie, il y a un commissaire européen au budget qui a dit aux Italiens, on va vous apprendre à bien voter, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc aujourd'hui, dit, l'Union européenne est devenue une prison, voilà, fonctionne de manière carcérale, totalement antidémocratique. Moi, je l'ai vu au Parlement européen, on est arrivé, la gauche et la droite ont voté exactement pour les mêmes candidats, pour les mêmes présidents de commission, etc. Et faut en sorte que nous, les représentants du peuple, les partis, alors s'il faut être populiste, si populiste et défendre le peuple, moi, ça me dérange pas, qui défendons les intérêts de nos nations, en fait, hein, qui défendons le bon sens et les intérêts de nos nations. On est absolument aucun
Boris problème. Johnson, vous aimez Boris Johnson, nouveau
Premier
ministre
britannique. C'est pas ce que j'aime, ouais, ce que j'aime pas. J'ai regardé son programme. Je trouve qu'il a des mesures extrêmement intéressantes. Ça a été plutôt un bon maire de Londres sur la sécurité, notamment. Il veut embaucher plusieurs milliers de policiers. Il est assez équilibré et apaisé sur les relations
entre
les États-Unis et l'Iran, avec la volonté de faire respecter les accords de Vienne. Je trouve assez équilibré pour l'instant. Maintenant, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut faire respecter la volonté du peuple britannique. Et pour moi, c'est ce qui compte, parce que beaucoup de Britanniques ont le sentiment que leur vote a été volé. En démocratie, il y a un seul juge, c'est le peuple.
Donc il faut que le Brexit se fasse le plus rapidement possible.
Mais parce que c'est la volonté des Britanniques. Et que les Britanniques
ont voté en 2007
pour quitter l'Union. J'ai toujours dit, vaut mieux un good deal qu'un no deal. Maintenant, si l'Union européenne continue de s'entêter et de refuser de négocier,
Macron est plutôt à dire maintenant, allez-y quoi.
Mais tant mieux, mais qu'on respecte la volonté des Britanniques. Ils ont eu un choix souverain qui était celui de sortir de l'Union européenne pour retrouver leur liberté. Mais on continuera de commercer avec eux. Et les résultats économiques en Grande-Bretagne sont plutôt bons. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1975. Les salaires ont augmenté. Alors si c'est ça le prix de la liberté, bonne route aux Britanniques avec qui nous continuerons de travailler, mais il faut qu'encore une fois le gouvernement français soit capable de défendre aussi les intérêts.
Alors, je voudrais revenir sur des propos que vous avez tenus. Vous avez participé à cette polémique qui avait été lancée par Nadine Morano sur les tenues de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, et vous avez dit que Sibeth Ndiaye s'habillait comme un Teletubbies.
Oui, c'est factuel. Je veux dire, quand on
s'habille avec une chemise colorée, on est Teletubbies.
Non, mais si vous voulez, quand on représente la France, quand on arrive dans une cérémonie officielle comme celle du 14 juillet où on célèbre nos armées, on célèbre le sacrifice de nos soldats, eh bien on a un peu de tenue, oui, on s'habille pas comme Tiki Winky, on a un peu de tenue, on a un peu d'exemplarité à avoir.
Mais pourquoi Sibeth Ndiaye spécialement est ciblée? Est-ce qu'on a le même regard très critique sur la tenue des autres femmes du gouvernement?
Ce jour-là, elle était effectivement, elle a un accoutrement qui est parfois, je trouve, n'est pas adapté à sa fonction. Et je pense que représenter la France, ça demande un peu d'exemplarité. Et son attitude, effectivement, est critiquable. Moi, je critique pas sa couleur de peau, je critique son attitude, je critique son comportement. Et quand je l'entends, effectivement, nous dire que la meuf est dead, lorsque Simone Veil décède, lorsque je l'entends nous parler de la France des kebabs, on l'entend faire un certain nombre de sorties.
La France des kebabs, elle existe.
Mais elle sait très bien ce que ça veut dire. Elle est dans une provocation. Parce qu'elle provoque, elle sait très bien ce que ça veut dire. Et effectivement, d'autant plus quand on a acquis la nationalité française il y a 3 ans et qu'on se veut être un modèle d'assimilation et de réussite, eh bien effectivement on a une attitude exemplaire parce que avoir une tenue et une attitude.
Alors comme elle est française seulement depuis 3 ans, là.
Oh, je m'en doutais, vous êtes prévisible.
Mais non, mais c'est vous qui dites ça. C'est vous. Non, mais c'est pas que c'est prévisible. Je suis votre. Vous dites.
Oui.
Donc. Vous venez de rappeler, excusez-moi, vous vous dites, bon, il y a un problème de tenue, ça n'a rien à voir avec cette couleur de peau. Mais en fait, en même temps, ça a à voir avec le fait qu'elle est française seulement depuis 3 ans.
Oui, parce que quand on est français, vous voyez, je crois que c'est pas venez comme vous êtes, c'est devenez ce que nous sommes. Et je pense
exemplaire que les autres?
Oui, je pense que lorsqu'on acquiert la nationalité française, lorsque la France nous offre, peut-être qu'il y a de plus beau à savoir sa citoyenneté.
Alors, quelle est la tenue?
Eh bien, on a un devoir d'exemplarité.
Selon vous, quelle est la tenue correcte exigée pour une porte-parole du gouvernement, puisque vous dites c'est pas comme ça qu'elle doit s'habiller? Comment doit-elle s'habiller?
Mais on ne s'habille pas avec des tenues excentriques, voilà. On a un peu de tenue, un peu de respect, notamment lorsqu'on vient au 14 juillet rendre hommage à nos armées et à nos soldats dont certains sont encore en exercice aujourd'hui partout dans le monde.
Ce que je comprends pas, c'est le devenez ce que nous sommes, parce qu'on est en train de parler des tenues potentiellement excentriques de Sibeth Ndiaye, mais quand vous nous dites devenez ce que nous sommes, ça a l'air de lier les tenues excentriques aux origines de Sibeth Ndiaye. C'est assez curieux.
Mais je vous dis, quand je l'entends avoir un certain nombre de propos.
Non, vous avez dit devenez ce que nous sommes.
C'est ma définition de l'assimilation.
En parallèle, les tenues.
C'est ma définition de l'assimilation.
On doit quand même, quand on a des origines, moi je suis d'origine italienne par exemple, je ne vais pas renier le fait, voilà, j'ai cru le comprendre. Je ne vais pas renier mes origines italiennes et je ne vais pas abandonner tout ce qui a fait mon parcours et ce qui a fait ma vie pour être uniquement franco-français.
Mais on ne vous dit pas d'être franco-français.
Donc on ne peut pas dire devenez ce que nous sommes.
Quand vous arrivez dans un pays.
C'est un peu grossier comme
quand
terme.
Vous venez de l'étranger,
vous a...
non, mais quand vous arrivez dans un pays, que vous soyez issu de l'immigration, que vous obteniez après un parcours exemplaire comme celui qui était celui de Madame Mendia, c'est pas le sujet, et que vous devenez français, vous apportez pas une différence à la société française, vous apportez une nuance, et ça suppose. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, chez moi on parlait français. Voilà, chez moi quand je revenais avec une mauvaise note, c'était l'assurance de passer une mauvaise soirée.
On va être très clair. Je préférais, qu'on me parle de bêtises, parce que ça c'est possible, c'est-à-dire s'habiller avec une tenue qui n'est pas appropriée, par exemple, au défilé du 14 juillet, qu'on le mette sur la bêtise, mais qu'on le mette pas sur les origines, sur les choses comme ça, c'est tout, ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est pas ça la question. C'est que je vous dis que quand vous êtes porte-parole du gouvernement, quand vous représentez la France, quand vous représentez l'exercice du pouvoir, quand vous représentez des millions de gens, et qui plus est lorsque vous avez acquis récemment la nationalité française, et que pardon.
Le problème, c'est que vous faites le lien avec ses origines, c'est ça le problème.
Parce que Sibeth Ndiaye est la fille de hauts dirigeants politiques au Sénégal. Et donc, elle a la connaissance des codes politiques. Et donc, elle ne peut pas effectivement faire ce genre d'erreur. Et je vous rappelle que lorsqu'elle est habillée, elle est arrivée habillée de manière un peu excentrique dans un certain nombre de dîners, ça a choqué même les diplomates africains.
Alors, Jordan Bardella, si je comprends bien pour vous, elle ne fait pas ça par erreur, elle fait ça, c'est voulu d'arriver comme ça?
Mais je ne sais pas, c'est à elle de le dire, mais en tout cas quand elle a des propos déplacés, que ce soit sur Simone Veil, que je trouve dont les propos je trouve complètement stupides, sur la France des kebabs, etc., elle sait qu'elle va provoquer derrière, et je dis juste que quand on respecte les électeurs, les électeurs, les institutions,
on est dans les préjugés racistes en fait. Ouais.
Mais il y a quoi de raciste là-dedans?
Il faut quand même rappeler qu'on a une population sur nos îles françaises qui ont aussi cette tenue vestimentaire parce qu'effectivement.
Mais ça n'a rien à voir. Et l'outre-mer nous a mis en tête lors des élections européennes.
Est-ce que Madame Taubira aurait assisté au défilé du 14 juillet où se serait présentée à l'Assemblée nationale?
Et pourquoi Madame Taubira?
Mais parce qu'il évoque les outre-mer parce qu'elle s'habillait.
De génération qu'une
c'est pas une question de génération, c'est une question.
On n'a pas vu Christiane Taubira habillée de cette manière. Malgré toutes les critiques politiques,
même Christiane Taubira a 70 ans.
Mais je dis juste que quand on représente des millions de gens, quand on représente la France, on a une certaine tenue.
Sur le t-shirt,
je pense
que la tenue du 14 juillet, qu'elle arrive quand elle est arrivée à l'Élysée juste après la victoire d'Emmanuel Macron en basket. Bon, on a pu trouver ça à la limite amusant, même si j'ai trouvé que c'était pas très joli avec une robe de porter des baskets. Mais bon, en supposant
après,
que ça soit élégant.
Mais après, c'est la police des bons goûts, je veux dire les goûts et les couleurs.
Qui va définir
les tenues maintenant officielles.
Et puis, si vous voulez,
c'est la représentation de la France. Il y a quand même. Alors, je suis désolée, excusez-moi. Il me semble que l'élégance française, ça veut encore dire quelque chose. Donc,
on peut trouver que mettre des baskets avec une robe, c'est élégant.
Ce qui est bien, c'est qu'on vit dans un pays où on n'est pas prêt de sortir de la crise parce qu'on attache l'importance qu'à des symboles qui n'en ont strictement
pas.
En tout cas, il faut rappeler un point, c'est que le critère de naturalisation en France, l'assimilation fait encore partie des éléments
dans
les
critères.
Parce qu'on en parlait tout à l'heure de l'assimilation, et comme je sais que c'est un gros mot pour certains, il faut quand même rappeler que dans la loi aujourd'hui, un des éléments qui vous fait accéder à la naturalisation, c'est votre degré d'assimilation. Et l'assimilation, c'est aussi à nos us et coutumes, à nos mœurs et aussi à notre façon de concevoir, non pas seulement l'élégance, parce qu'il ne s'agit pas tous d'être des gravures de mode, mais une certaine tenue, en particulier quand on représente la France.
Cette dictature,
tu ne représentes pas la France, tu n'es pas porte-parole du gouvernement.
Cette dictature de l'émotion et de la victimisation, en plus, à chaque fois, parce qu'on ne peut pas me critiquer parce que je suis de couleur noire, etc., tout ça est insupportable.
Oui, mais inversement, pourquoi on la cible elle que...
Vous savez très bien que si j'étais arrivé.
Vous êtes arrivé chez Hollande qui a été ciblé.
Non, mais d'accord, mais enfin, un peu de tenue.
Comment
voilà.
Cibler Rachida Dati? C'est marrant, en France, on cible que les ministres qui effectivement sont différents. Donc c'était Rachida Dati. Elle était à peine nommée, qui a été déjà critiquée. Et maintenant, c'est Sibeth Ndiaye qui est à peine nommée. Je pense que les Français ne la connaissaient pas.
Christiane Taubira, elle était critiquée pour ses idées, sa façon de concevoir sa politique.
Je rappellerai les caricatures.
Mais il y a toujours du racisme. C'est un fait. C'est factuel.
Son rôle, c'est porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que chaque mot est étudié.
Oui.
Elle ne parle pas.
Bien sûr.
C'est pas elle qui parle. Oui. C'est le gouvernement qui parle. C'est pas elle qui met une tenue. C'est le gouvernement qui met une tenue.
Voilà.
Ça veut dire que quand elle s'habille d'une façon appropriée ou pas appropriée, peu importe, ça a été visé, approuvé. On me fera pas croire qu'elle arrive sur une estrade comme ça. Comme
tu crois qu'elle fait valider par Édouard Philippe?
Je pense que tu ne
comme les travaux de rénovation.
Tu ne prends pas la responsabilité de choquer ou de gêner un gouvernement tout seul. C'est pas vrai. Ouais.
Et
donc,
voilà,
à partir de là, c'est fait. C'est accepté. Et c'est accepté à tort ou à raison. Peu importe, c'est pas à nous de juger. Moi, les tenues, ça me choque pas. Après, le mot kebab, par exemple, ça a été visé, ça. C'est arrivé en pleine affaire de Rugy, ça a détourné l'attention un peu, c'est très bien joué sur le plan de communication.
Ça veut dire quoi, voilà, la France du homard contre la France des kebabs? Non mais voilà, elle est dans, elle fait de la provoque, et ça c'est insupportable. Mais je dis juste, voilà, un peu de tenue. Si j'arrive sur vos plateaux à 18h10 sur BFM le soir avec un sweat à capuche, des lunettes et en jogging basket, vous n'allez pas trouver ça correct.
Bah, c'est à vous de l'assumer.
Et oui, non, mais vous l'assumez. Oui, mais je pense que vous ne trouveriez pas ça correct et vous auriez raison. Donc je dis juste que quand on
sincèrement, je donne pas des consignes vestimentaires. Sur le plateau.
Je viens en sweat à capuche, lunettes, avec mon jogging à 18h10 à votre prochaine invitation sur BFM.
Alors je vous prends mot. Ah d'accord, ça marche. Rendez-vous sur BFM TV comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a derrière le sweat à capuche? Pourquoi vous dites ça? Enfin, je sais pas,
mais parce que je dis juste, non, mais c'est pas ça, mais.
Parce que c'est pas une tenue exemplaire pour un homme politique.
Parce que c'est pas une tenue quand on représente la France et quand on représente les électeurs.
Allez, merci Jordan Bardella.
Avec grand plaisir.
Merci d'être venu. Donc, à bientôt en capuche sur le plateau de BFM TV et dans les grandes gueules,
pendant
bien entendu.
Pendant la canicule, sinon ça comprend.
Allez, on enchaîne avec les GG, vous.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
Et c'est Liliane qui est avec nous. Bonjour Liliane.
Oui, bonjour. Je voulais parler à Johnny.
Eh bien,
bonjour,
ça tombe bien parce que Johnny va vous parler dans un instant. On va réécouter ce qu'il disait tout à l'heure. C'est à propos du CETA.
Pour relativiser un peu les choses, quand on nous présente le CETA aujourd'hui, si on écoute les gens, ça y est, on va bouffer que de la viande pourrie avec des
hormones. Surtout, on va manger de la viande canadienne, ce qu'on ne fera, à mon avis, jamais dans notre vie, quasiment.
Enfin, sauf quand même que je vais juste rappeler aux gens qu'en Europe, on produit 7,8 millions de tonnes de viande. Le Canada, en 2 ans, on a exporté 470 tonnes et seulement 14 tonnes en France.
Oui.
Et en France.
C'est 14 tonnes de trop.
Liliane.
Oui, alors Johnny, vous avez, je vais employer un verbe un peu fort, glorifier le CETA.
Ah non, je ne vais pas glorifier le CETA.
Oui, alors que finalement, vous êtes sur le plateau des Grandes Gueules pour commenter l'actualité. Oui. Donc là, vous auriez pu parler pour vous en disant, moi le CETA, je trouve ça bien, mais après tout, ce n'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, parce que nous allons retrouver de la viande probablement dans des boîtes de conserve et tout, et vous produisez du fromage. Oui. En fait, les grands gagnants du CETA vont être les fromagers. C'est bien ce que j'ai entendu hier en suivant les actualités, parce que je les suis aussi. Est-ce que vous êtes exportateur de fromage au Canada, vous?
Non, pas du tout. J'exporte sur l'Italie et les pays européens.
Et c'est vrai qu'il est plutôt favorable au fromage français, parce qu'il va permettre au fromage français de mieux se vendre sur place.
Mais contrairement à ce qu'on dit, le fromage français s'exporte déjà.
Les fromages français vont avoir... Oui, tant mieux, je suis d'accord.
C'est de l'emploi derrière.
Mais je suis ravie pour les fromagers. J'aime le fromage aussi, comme tous les Français. Mais justement, c'est ce que je voulais savoir, si finalement, il était exportateur de fromage et qu'il parlait un peu pour les fromagers.
Mais non, mais pas du tout, et je ne glorifie pas du tout le CETA. Ce qui me fatigue, c'est la façon dont on présente les choses. Je pense que beaucoup de gens en France sont contre le CETA sans savoir exactement ce qu'est le CETA. C'est-à-dire quand présente les choses en disant aux gens, attention, vous allez manger toute votre viande, sera pleine d'hormones, d'antibiotiques, elle sera nourrie avec des produits chimiques, de tout ce qu'on veut. Bon, très bien, oui, ça existe au Canada, c'est vrai. Sur des produits qu'on n'utilise pas en France. Sauf que c'est une petite partie de leur production. Pardon ?
Nous manquons de contrôleurs et nous savons très bien qu'il arrivera des viandes qui ne sont pas conformes aux normes françaises, puisque nous avons énormément de normes. Mmh. Et de toute façon, si vous voulez qu'il y ait encore de nouveau un scandale avec la vache folle, eh bien, allons-y, bravo le CETA.
Je dis quand même qu'en France, on a une traçabilité des produits qui est quand même pratiquement irréprochable. Donc, quand vous achetez.
Mais pas de ce qui viendra de l'étranger.
Mais bien sûr que si, quand vous achetez de la viande, si vous achetez pas de la viande française, vous le savez, vous n'êtes pas obligé de l'acheter non plus. Et si vous dites dans les boîtes de conserve, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter toute cette bouffe préparée qui rend tout le monde malade. Vous pouvez acheter des produits non transformés. Donc, il y a un moment, celui qui bouffe ça aujourd'hui, c'est une volonté. Il a envie de le faire. Donc, faut arrêter de pleurer. On n'est pas obligé d'en acheter.
C'est une question d'argent, tu disais toi-même.
C'est aussi une question d'argent, c'est vrai.
Mais
il y a aussi des produits. Il y a de la viande française, évidemment. Si tu veux manger de la côte de bœuf tous les jours, ça coûte très cher. Aujourd'hui, je vais te dire un truc, tu vas chez le boucher, de la viande à bouillir, ça vaut 3-4 euros le kilo l'été. Personne ne t'empêche d'en congeler pour te faire du bourguignon l'hiver. Donc, à un moment, c'est une question de façon de vivre. On ne peut pas toujours attendre que les politiques règlent tout.
En même temps. Liliane.
Oui.
Allez-y, parce que maintenant, Johnny a terminé de parler.
Où j'habite, une ville de 24 000 habitants, je n'ai plus de boucher. J'ai juste le centre Leclerc qui vend la viande. Je ne sais pas d'où. De temps en temps, j'achète du poulet de Louis.
C'est pas possible ce que vous dites, Diane. C'est pas possible. La viande qui est dans votre supermarché, elle est étiquetée, vous avez la provenance. Moi, je peux vous dire, quand je vais chez moi, dans un petit village de 1000 habitants, dans mon supermarché, je sais si j'achète de la blonde d'Aquitaine, de la partenaise, où elle a été produite, tout est marqué dessus.
Regardez les étiquettes, Liliane.
C'est obligatoire.
Oui, non, mais je sais lire encore, hein. Vu mon âge, je sais lire.
Bah, donc vous savez d'où vient la viande, alors.
Donc, alors, portez plainte parce que c'est illégal.
Non, mais je crois que ce que dit Liliane, si tu veux, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'ouverture des frontières que va mettre en place le CETA risque d'augmenter très fortement les entrées de viande à bas coût venant du Canada ou des États-Unis, viande piquée avec des hormones, avec différents produits qui aujourd'hui ont été écartés de la consommation dans ce pays, et que petit à petit la nature ayant rendu vide ou le plus fort gagnant sur le plus petit, tu vas avoir de plus en plus de ces viandes-là dans les différents commerces et notamment la grande distribution, et que Liliane demain elle aura plus le choix parce qu'elle ne trouvera plus que de la viande en provenance du Canada.
Ben moi je crois pas.
Et puis surtout, ça met encore une fois en concurrence déloyale nos agriculteurs à qui on demande en plus, pour beaucoup, de pouvoir élever dans des conditions de plus en plus conformes à nos exigences environnementales. Et c'est normal parce que l'agrobusiness, c'est ça qui nous tue et qui nous rend en plus malades physiquement. Et c'est ça qui va d'ailleurs accroître largement un grand nombre de maladies, notamment les cancers, etc. Donc, il va falloir effectivement qu'on soit très sensible à ces questions de libre-échangisme sur la nourriture en particulier qui nous rend malades.
Merci Liliane, merci d'avoir appelé au 3216. Dans un instant, la suite du GG, vous sur RMC. C'est RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC.
Bien installé.
Pas terrible.
9h midi.
Je vous présente humblement le joyau de la couronne de nos gardiens de la liberté.
Un visionnaire.
Olivier Truchot.
Un génie.
Soyez le bienvenu dans la joyeuse famille des capitalistes.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avant d'écouter Danila qui est avec nous au 32-16 et qui veut interpeller Barbara Lefebvre sur la canicule. Rémi Barré est avec nous. Salut Rémi.
Salut Olivier, bonjour à tous.
C'est toi qui es aux commandes de Radio Brunet à partir de midi sur RMC. Quel est le programme ?
Eh bien, à partir de midi dans Radio Brunet, on va parler de la PMA étendue à toutes les femmes. Tu sais que le projet de loi, c'est une promesse d'Emmanuel Macron, de campagne d'ailleurs, il faut le rappeler. Et le projet de loi est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Ça sera débattu à partir de septembre au Parlement. Donc l'extension de la PMA à toutes les femmes, femmes célibataires et couples de lesbiennes. Alors on va en parler. Moi je ne suis pas un partisan acharné pro-PMA pour toutes les femmes. Je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas la vérité. Seulement je me dis que, comme beaucoup de Français d'ailleurs, tu as vu des sondages, ça a très vraiment évolué hein, l'opinion des Français. Aujourd'hui, ils sont majoritairement pour l'extension de la PMA. Mais je me dis, c'est vrai que refuser à une femme seule ou à un couple de lesbiennes qui s'aiment d'avoir un enfant, je me vois mal leur interdire. Être qui pour juger ?
Créer des familles monoparentales, ça gêne personne.
Mais il y en a déjà plein, donc, familles monoparentales. Pas besoin d'être une femme seule ou un couple de lesbiennes.
Est-ce que c'est pour autant qu'il faut en créer ?
Mais est-ce que pour autant il faut les interdire ? Moi, en tout cas, on va en discuter.
On voit bien le débat, hein. Il est chaud, là.
Ça évoque surtout un gros problème, c'est la question du droit à l'enfant. Et je considère que le droit à l'enfant, ça n'existe pas parce que l'enfant, on le met au monde et ensuite il a sa vie.
Alors, attendez, on va en parler. Rémi, tu sais, dès que je lance un sujet sur les grandes gueules, on en parle.
On veut que c'est un sujet passionnel, on va en parler à partir de midi au 32-16. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler.
Aux enfants, vous pouvez nous. Au désir des adultes.
Vous pouvez nous appeler au 32-16.
Voilà, à tout à l'heure, Rémi Barré à partir de midi. Et donc, Mercato, j'envoie Johnny Blanc, Barbara Lefebvre chez Rémi Barré. Voilà. À lui se débrouiller. La suite des GG, vous. Danila est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors, on va reparler de la canicule avec vous. Très bien. Oui. Danila, vous nous appelez de Haute-Savoie. Où ça, précisément ?
À Thonon-les-Bains.
Thonon-les-Bains, c'est magnifique par là.
Venez, vous allez voir, vous allez être surpris. Ils sont en train de tout casser pour nous faire des immeubles.
C'est pas vrai.
Oui, parce que tout est bétonisé, c'est une catastrophe.
Pourtant, c'est plutôt la nature là-bas, Thonon-les-Bains.
Ah, ben c'est terminé.
Avec le lac.
Terminé. Non, ils ont décidé de faire la super urbanisation, le Grand Genevois, c'est-à-dire qu'on verra plus la différence tout le long du lac, de Genève à Lausanne.
Ah bon ? Ah bah, oui. Bon. Alors, c'est pas pour ça que vous appelez, mais c'est pas une bonne nouvelle. On va parler de la canicule et c'est Barbara Lefebvre que vous voulez interpeller. On le réécoute.
Aujourd'hui, on ne vit même pas dans une société du confort, on vit dans une société de l'opulence. Donc
oui,
on veut pas avoir froid, pas avoir chaud, bien manger, bien boire. Et puis surtout, on nous infantilise en nous répétant toute la journée, fermez bien vos volets, buvez de l'eau. Les gens, il faut arrêter aussi de prendre les gens pour des imbéciles.
Bah, surtout quand
on
ce sont compris, des ministres qui le disent, chaud. C'est vrai que bon.
Oui, voilà, il fait chaud, ça va durer 4 jours.
Danila.
Oui. Bon, bonjour Madame Lefebvre. Bonjour. Alors voilà, je voudrais vous interpeller parce que oui, effectivement, on entend la canicule, la canicule, la canicule. Mais il n'y a pas qu'un problème également de chaleur, voilà, dont on n'est pas très habitué. C'est le mélange entre chaleur et pollution. Bon, je suis pas là pour faire pleurer les chaumières, pas du tout. Je suis quelqu'un de très asthmatique. Depuis 4 ans, 3 ou 4 fois chaque été, je suis envoyée par le 15 aux urgences en salle de déchocage parce que les crises d'asthme deviennent tellement violentes que j'en fais des malaises cardiaques.
Oui, mais ça,
voilà. Et l'an dernier, c'est mon fils de 10 ans qui m'a trouvée par terre à 3h30 du matin.
Oui, non, mais ça, j'en
le choc
très
a été
bien.
Tellement violent que j'en ai fait un malaise cardiaque.
Oui,
voire un arrêt cardiaque.
Là, on est bien d'accord,
donc,
on parle de la question de la pollution.
Voilà, il faut penser au... Bon, je parle de moi, j'ai 52 ans. Les personnes âgées, bon, tout le monde connaît le problème. Et cette année, ça a recommencé. Je me suis trouvée en salle de déchocage avec une petite de 7 ans qui avait des problèmes cardiaques, dus également à ce problème de chaleur, de pollution. Voilà, effectivement, c'est fatigant, c'est énervant. Mais si nos ministres ou nos hommes politiques ne disaient rien à la télévision, que malheureusement, il y arrivait un problème, mais vous savez qu'en France, tout fait scandale à l'heure actuelle.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison.
Nos hommes politiques vont être obligés de nous dire quand tirer la chasse d'eau, quand ne plus tirer la chasse d'eau, quand boire, quand ne plus boire.
Mais Danila, le vrai problème que vous évoquez, c'est le problème des particules fines, et effectivement, dans certaines régions. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez en commençant n'est pas du tout sans relation. Ouais. Vous nous expliquez qu'ils sont en train de bétonner tout autour de vous. Alors que vous êtes dans une région...
Moi, je suis partie il y a 2 ans de ça du centre-ville, mais qu'à 15 minutes du centre-ville. C'est tout bête, hein, à pied, 15 minutes.
En fait, le centre-ville vous rattrape, quoi. Si j'ai...
Voilà, dans un petit coin où il n'y avait que des maisons, des anciennes fermes viticoles. Là, en un an, il n'y a plus rien. Là, je vais être entourée, on va être les dernières survivantes de ces maisons. On va être entouré de bâtiments. Mais qui sont
et j'imagine que c'est du béton, vous n'avez aucun toit végétalisé, aucune façade végétalisée.
Je n'ai plus rien. Il n'y a plus de jardin, il n'y a plus rien. Plus d'arbres.
Là-dessus, je vous rejoins, mais voyez, la cause n'est pas véritablement la question de la canicule qui dure 3-4 jours, même si évidemment pour vous, ça a des conséquences en termes de santé qui sont dramatiques, mais qui peuvent même être tragiques. Mais la vraie question, c'est la question des particules fines.
Moi, ça ne me choque pas qu'on le répète, parce que je travaille également en EHPAD.
Oui.
Et donc, je suis très sensibilisée aussi sur les personnes âgées. Donc nous, ils ont de la chance, voilà, ils sont dans un lieu très sécurisé, hein, voilà, tout le monde s'occupe d'eux, on leur donne à boire, on leur donne de l'eau gélifiée, on leur donne des glaces. Les seuls endroits chez nous qui ne sont pas climatisés, c'est les chambres. Mais tout est climatisé, les couloirs, le resto, tout. C'est même un peu trop, moi, je trouve, mais bon, hein, je n'ai pas à juger. Voilà.
Les ventilateurs, ça ne fait pas de mal non plus, plutôt que de mettre tout le monde à sous 15 degrés. Hein, parce
on peut mettre un ventilo dans les chambres, ça coûte moins cher en plus.
Et en général, c'est les familles elles-mêmes qui achètent le ventilo pour le mettre dans la chambre de leurs anciens.
Merci, Danila, d'avoir appelé au 3216. Et puis Thierry est avec nous. Bonjour, Thierry.
Bonjour.
Avec vous, on va reparler de qui ? De François de Rugy. Avec Johnny Blanc. On écoute Johnny.
Avec Johnny Blanc, le fromager.
Eh oui.
Parce que moi, je suis un boucher depuis 73, j'ai 60 ans.
Eh bien, le boucher va interpeller le fromager. On réécoute Johnny Blanc.
Cette transparence me sort par les yeux. Je pense que ce thème de campagne qui était la transparence, aujourd'hui, va nous conduire vers cette société-là. Parce que quand tu regardes quand même le détail de toutes ces affaires, jusqu'à une barre de douche à 250€, 3 tabourets de chez IKEA à 300 balles, mais qu'est-ce qu'on en a ciré ? Par contre, j'en ai pas entendu un seul.
17 000 euros le dressing, on en a ciré. Excuse-moi. 16 000 euros pour la couleur des moulures, oui, j'en ai assiré parce que je vois pas bien le rapport avec le.
Eh ben, fais des travaux dans un bâtiment classé, puis tu verras ce que ça coûte.
Non.
Thierry.
Je peux parler ?
Allez-y.
Allô ?
Oui, Thierry.
Je peux parler ?
Ben allez-y. Alors, Thierry.
Oui, Johnny. Moi, je me lève à 2h15 du matin. Mon heure supplémentaire, elle est payée 90 centimes. Ça dit quelque chose ?
Oui.
Alors, quand tu vois qu'il se paye un dressing à 16 000 euros, je suis désolé, quoi. Pardon, mais sois raisonnable un petit peu, le fromager.
Parce que
j'ai travaillé pour les fromagers. J'ai travaillé tous les jours fériés pour les fromagers. On m'a jamais payé en double. Et moi, j'ai toujours été un bon artisan. Quelqu'un qui travaille, qui ne demande rien, qui aime mon pays et qui l'aime. Mais sache qu'il y a une moitié de la France qui est en détresse. Alors ne va pas soutenir des gens comme ça.
Mais c'est pas une question de soutien. J'ai jamais dit que je soutenais de Rugy. Je pestais contre Mediapart, de la façon dont ils se comportent par rapport aux gens.
Ils nous le disent et on le voit à la télé. C'est vous les journalistes qui nous mettez ça en face de la tête et on l'écoute. Quand tu vois le Fillon, ces gosses de 13 ans qui gagnent des trucs, des 2500 euros, des 3000 euros, hey, mais oh, oh, tu vas redescendre sur Terre. Oh, 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 redescendez sur Terre.
Non, mais moi je suis contre le lynchage. Donc le
c'est
problème.
Pas du lynchage.
Mais
c'est
si,
du
parce que.
Le c'est différent, c'est pas du lynchage. Alors, le moi, problème. J'ai rien contre ces gens-là. Mais quand tu vois l'autre qui s'est fait encore voler, là, il y a deux jours, 50 000 euros en liquide, des bijoux partout, breton, c'est ça, non ?
Mais les bretons.
Et ils s'en mettent plein les poches, ça fait 20 ans qu'ils s'en mettent plein les poches.
Ils vont pas attirer breton, les chefs d'entreprise, ouais, mais là, c'est la jalousie.
C'est pas une raison pour le séquestrer.
C'est la jalousie. Oui, mais là, on est vraiment dans post-gilet jaune, la jalousie sociale.
C'est les propos de gilet jaune, ça, mais ça fait pas avancer la machine.
Non mais Thierry, jalouser l'argent de Thierry Breton, qu'il a sans doute gagné très honnêtement, je rappelle qu'il est chef d'entreprise, etc.
Oui,
il a,
bon,
c'est plutôt une réussite.
Bien, oui.
Ça ne nous apporte rien. Et en plus, sincèrement, c'est pas, il a quand même été cambriolé, séquestré, je suis pas sûr que ça soit quand même il est plutôt du côté des victimes.
Mais monsieur, moi,
enfin, Thierry, je vais juste vous poser une question. Est-ce que depuis cette histoire de transparence, maintenant qu'on est au courant de tout ce qui se passe à peu près, est-ce que les Français vivent mieux?
Oui. Non.
Non, parce que c'est ça la question. Mais c'est pire. On est devenu la population la plus pessimiste au monde. Juste parce que justement, on déprime de tout. Mais moi, j'en veux pas de cette société. Je n'en veux pas.
Voilà, réponse de Johnny Blanc à Thierry. Merci Johnny, merci Barbara Lefebvre, merci Docteur Marty. À très bientôt dans les Grandes Gueules. Demain, on se retrouve à 9h sur RMC, RMC Story, avec Maxime Niedot, l'étudiant en histoire. Etienne Ebile, éducateur, Joël Dagossiri qui travaille dans le logement social. Et puis à 11h, c'est la patronne de la FNSEA, la Fédération des agriculteurs, Christiane Lambert, qui viendra passer le grand oral au moment où les agriculteurs subissent de plein fouet la sécheresse. Et c'est un vrai souci. On en parlera notamment avec elle. À demain sur RMC, RMC Story. D'ici là, portez-vous bien.
RMC, les Grandes Gueules.